Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir notre ami et confrère Claude Boschurberg, auteur de l'ouvrage Un été métaphysique avec Joseph Schwartz, qui vient de paraître aux éditions Zinedi. Bonsoir Claude.
Bonsoir Sandrine.
Alors une nouvelle fois, inutile de vous présenter aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom. Mmh. Tu es ici chez toi, on a décidé de se tutoyer.
Oui, bien sûr.
Mais quand même, je vais dire quelques mots et tu peux m'interrompre et ajouter des choses ou en retrancher. Éveilleur de conscience, tu es une figure essentielle de la mémoire de la Shoah, de sa transmission, de sa connaissance. Ton engagement est lié au début de ton existence qui a été percutée par la disparition de ton père, Maurice-André Boschurberg, sous-officier dans l'armée française, déporté sans retour par le convoi 73 du 15 mai 1944 vers les pays baltes.
Oui.
Depuis 1981, tu es responsable de la rubrique Mémoire à actualité juive et animateur de l'émission Mémoire et Vigilance, ici, sur l'antenne de Radio Shalom. Tu es également et surtout membre de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France, fondée et présidée par Serge Klarsfeld.
Oui.
On peut rappeler également que tu as deux casquettes, celle d'ostéopathe, psychomaticien, psychosomaticien, enseignant, ancien chargé de cours à la faculté de médecine Paris-Nord. Tu es l'auteur de quelques 35 ouvrages, dont un certain nombre coécrits avec Serge Klarsfeld sur les thématiques qui te sont chères, l'ostéopathie et la mémoire. Et ton actualité, c'est donc la parution de cet ouvrage, Un été métaphysique avec Joseph Schwartz.
Oui.
Alors ce nouveau livre, selon moi, est un peu à part dans ta bibliographie, du point de vue de sa construction littéraire, puisqu'il s'agit de ton journal de bord de l'été 2024, axé à la fois sur les soubresauts politiques dont nous ressentons encore aujourd'hui et pour longtemps les répercussions, et ton amitié avec deux figures emblématiques, j'allais dire même exceptionnelles, des fils et filles des déportés juifs de France, son fondateur, qui a toujours montré le chemin, Serge Klarsfeld, et son ami, et ton ami, Joseph Schwartz. Alors si l'on connaît bien Serge Klarsfeld, on connaît un peu moins Joseph Schwartz, et pourtant, Joseph Schwartz est un rescapé de la rafle du Veldiv, c'est le seul survivant de sa famille. Avec les hauts et les bas qui caractérisent le grand âge, il est aujourd'hui du haut de ses 98 ans, toujours engagé.
Oui.
Et cet ouvrage, qui n'est pas une biographie classique, lui est consacré comme un hommage à sa vie résiliente et à son action pour la transmission de la mémoire. Au jour le jour, durant l'été 2024, une réflexion émerge autour de cet homme violenté par l'histoire et dont la mémoire blessée, mais vivante en diable, empreinte de mille combats avec les Klarsfeld et ses compagnons, mérite la plus grande considération. Alors, est-ce que tu peux nous raconter le point de départ, la genèse de cet essai et pourquoi ce thème et pourquoi ce style ?
Alors, d'abord, j'ai presque envie de dire, tu as tout dit. Presque l'émission peut s'arrêter. Non, mais bon, trêve de plaisanterie. Il s'avère que le point de départ, c'est le fait que Serge Klarsfeld déclare que Joseph Schwartz est son meilleur ami avec lequel il veut partager sa tombe. Et lorsqu'il rédige cet ouvrage en mémoire des 4000 enfants juifs arrêtés et déportés à la suite de la rafle du Veldiv, en première de couverture, on voit Joseph et son frère Paul, donc ce sont ces deux frères qui lui sont chers, enfin les deux frères qui figurent sur cette couverture du livre, pardon, et en fait, lorsqu'on tourne l'ouvrage, on s'aperçoit que la dédicace, elle est donc adressée à Joseph, son meilleur ami, avec lequel, encore une fois, il veut partager sa tombe. Et il faut rappeler que Joseph fait partie de ces rescapés du Veldiv, alors que son père, sa mère et son frère, sur lequel il figure donc sur la couverture du livre, ont été malheureusement raflés et déportés sans retour à Auschwitz. Et il s'avère que Joseph, aujourd'hui, qui a un âge vénérable, hein, 98 ans, est un mensch, voilà, une grande figure qui compte dans la famille des fils et filles des déportés juifs de France, dans la mesure où, depuis des décennies, il est aux côtés des Klarsfeld pour mener ce combat de justice et de mémoire. Et il m'a semblé, il m'a semblé que, en fait, cet homme-là, qui n'a laissé aucun écrit, hein, mais qui, par contre, qui a laissé une empreinte active, méritait effectivement de mettre un peu de lumière sur lui, dans la mesure où, en même temps, c'est quelqu'un qui est extrêmement modeste, qui est très humble et qui fait beaucoup. Alors, et c'est là où, dans le livre, je fais une petite parenthèse, c'est que, comme tu le sais, je suis nourri par la sève littéraire d'auteurs qui me sont chers. Je pense à Lévinas, je pense à Yankelevitch. Et Lévinas dit une chose très juste. Il parle de l'asymétrie. L'asymétrie, c'est quoi? C'est que face à l'autre, en réalité, je me sens une responsabilité pour lui et je n'attends rien en retour. Et en fait, ça caractérise Joseph dans la mesure où Joseph fait beaucoup, mais il n'attend rien en retour. Et j'ai trouvé que là, c'est une tellement belle attitude juive, enfin, et humaine, bien sûr, que ça méritait effectivement de le souligner. Entre autres, bien sûr.
Alors, tu as parlé de Serge Klarsfeld, oui, de sa préface, oui, qui est très forte. Oui. Elle est même peut-être empreinte d'un peu de nostalgie, et j'aimerais juste lire comment il l'a conclue.
Oui.
En ces quelques paragraphes, j'ai voulu exprimer toute mon affection et ma tendresse pour Joseph, en quelque sorte, plus mon frère aîné que mon vieil ami et qui partagera ma tombe, oui, puisque depuis un demi-siècle, nous sommes de la même famille.
C'est ça.
Fils et filles, c'est plus qu'une association, c'est une grande famille.
Oui, c'est une grande famille.
Et qui transcende peut-être la vie et la mort. C'est que les chers disparus eh bien, sont incarnés par les fils et filles.
Et souviens-toi, lors de notre dernière émission, tu m'avais reçu également à l'occasion de la sortie du mémorial de nos militants disparus. Hein, bon, quand même, 200 membres de l'association qui ont beaucoup compté. Et ce qui est vraiment frappant, enfin, je dirais, dans ce qui se passe aujourd'hui, dans ce rayonnement de l'amitié entre nous, ce que j'observe, c'est que, et dans le cas de Joseph et de Serge, ou de Serge et de Joseph, c'est que c'est une amitié, pour ne pas dire une fraternité, qui va au-delà de la vie terrestre, quoi. C'est pas rien, moi, ça... C'est quand même incroyable de dire « je veux partager ma tombe avec cet homme avec lequel je me sens en complète fraternité, voire c'est quelqu'un de ma famille ». Je veux dire, ça transcende complètement, je dirais, l'au-delà de la vie terrestre pour en fait... Et il le dit, et du reste, bon, bientôt on verra, j'espère, un petit film que je consacre à Joseph avec mon ami Michel Rosenthal, qui s'intitule « Joseph Schwarz, le meilleur ami de Serge Klarsfeld », dans lequel, dans ce petit film de 30 minutes, mais qui est, à mon avis, très très émouvant, Serge dit, eh bien, dans ma tombe, avec son humour hein, qu'il caractérise, parce que Serge fait montre d'un humour absolument incroyable, il dit, je veux continuer ma conversation avec lui. C'est extraordinaire de dire une chose pareille.
C'est extraordinaire. On va revenir sur ce point. Pourquoi le choix du style d'un journal de bord de l'été 2024?
Alors, parce que, en fait, je voulais faire quelque chose dans la mesure où je voulais restituer quelque chose de vrai avec Joseph. Ce qui est vrai avec lui, c'est que c'est rare, mais c'est comme ça. Tout comme Serge, on s'appelle pratiquement tous les jours. Et quelques fois, même plusieurs fois par jour. Et je dirais que ce qui tient aujourd'hui Joseph, c'est vraiment le fil de l'amitié, quoi. C'est rien d'autre qu'une parole d'amitié qui le tient, et nous souhaitons qu'il prolonge sa vie, je dirais,
jusqu'à
120 ans. Bon. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette affaire, eh bien, il fallait restituer ce dialogue, on peut dire journalier, sur fond de quoi? Bah, sur fond de la vie qui continue, et la vie qui continue, c'est quoi? C'est le fait que cet été 2024, et dans la prolongation de ce que nous avons vécu avec le 7 octobre, c'est-à-dire en fait, malheureusement, la suite avec le retour dans l'antisémitisme, avec ce qui s'est passé avec, évidemment, la situation en Israël, et puis cette politique infâme où on a vu certains partis politiques qui, en fait, renouaient avec un passé tellement nauséabond que je voulais mettre en scène cette toile de fond et continuer mon dialogue avec Joseph. Mais en même temps, ce n'était pas que le journal, puisque je le prolongeais en même temps par, je dirais, une réflexion, et c'est ça qui me semble le plus important, sur ce que peut nous apporter un homme comme lui, comme tu l'as rappelé, qui est fracassé par l'histoire, et qu'est-ce que ça signifie en termes de résonance aujourd'hui au plan qu'on peut appeler métaphysique, c'est-à-dire concernant la finitude, concernant le temps, concernant la fraternité, concernant aussi la transmission. C'est toutes ces questions qui nous habitent, nous, qui sommes, on peut dire, allez, le dernier carré des fils et filles, qui sont, je dirais, les hommes et les femmes qui prolongent la voix des nôtres assassinés à Auschwitz.
Est-ce que tu te souviens de la première rencontre avec Joseph Schwarz ?
La première rencontre, bien sûr, ça remonte à des décennies, mais il y a deux rencontres qui m'ont frappé, et du reste dans le petit film, on le rappelle, c'est le fait que je me suis retrouvé, donc il y a très très longtemps, en Israël avec lui, et en fait, ce voyage était conduit par quelqu'un qui nous était cher, donc on pleure encore la mémoire aujourd'hui, Miloy Donner, qui organisait chaque année un voyage en Israël pour passer de l'ombre à la lumière. Parce qu'avec ses amis, les compagnons de Blair Hammer Auschwitz III, ils s'étaient reconstitués en famille. Et pour eux, c'était, je dirais, immuable, un rituel. Tous les mois de mai, ils partaient en Israël. Et j'ai eu l'occasion avec eux de faire quelques voyages, dont un voyage aussi avec Joseph Schwarz. Et là, effectivement, l'homme est tellement délicieux que l'amitié, bon, elle surgit spontanément. Et puis, bon, évidemment, d'autres actions, mais une action aussi où il était présent, j'étais juste derrière lui, c'est qu'on se retrouve au domicile de Bousquet, et donc c'est une manifestation qui est organisée évidemment par les Klarsfeld, où on demande justice, et là, je dirais, nous sommes sous la banderole, et il est près de moi. Bref, je dirais que ce qui se passe avec lui, comme avec beaucoup d'autres hein, qu'on pourrait citer, mais c'est un compagnonnage d'action qui fait que d'une certaine manière, allez, je le dis toujours, les Klarsfeld nous ont donné une vie belle, une belle vie, digne et heureuse. Parce que on a été utile, quoi. Et c'est pas sans émotion que je pense à ça. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, viendra aussi après nous, dans la mesure où on a tellement travaillé les uns et les autres, qu'on va laisser des traces. Et je dirais que, d'une certaine manière, eh bien, c'est cette impression d'avoir été utile qui nous conforte quelque part, quoi. Et évidemment, quand je dis ça, je parle au nom de tous ceux qui militent, c'est-à-dire, et en particulier, bien sûr, Joseph Schwarz, quoi. Pardonne-moi,
mon
émotion est là. Bon.
Alors, tu as rappelé hein, tout à l'heure son parcours, le fait qu'il a perdu son père, sa mère, son petit frère Paul, et même sa grand-mère au moment de la rafle du Valdiv.
Oui.
Et à ce sujet, Serge Klarsfeld écrit quelque chose qui résonne dans ma mémoire et que je lis, que j'ai lu à plusieurs personnes. Je vais le lire ici. On peut faire semblant de s'en remettre, mais il n'y a pas de guérison, et jusqu'au dernier souffle, Joseph souffrira de ce bonheur assassiné. Même si on reconstitue une famille, même si on assume une vie professionnelle brillante, même si on se forge une immense culture historique et littéraire comme l'a fait Joseph, même si on fait semblant d'être heureux, on continue à vivre en juillet 1942. On ne cesse de s'enfuir du commissariat de la place d'Italie, on ne cesse de rôder autour du camp de Drancy, on se torture en revivant chaque nuit l'exode avec les siens, la bar mitzvah en 41, les derniers moments où la famille était réunie, et cet ultime matin où l'on est sorti dans la ville sans savoir qu'en revenant, on ne retrouvera personne.
Oui, oui c'est, les mots sont forts et vrais, mais il faut signaler également que, en fait, avec Joseph, on assiste aussi à quelque chose qui est encore plus fort que la vie naturelle, c'est-à-dire, comme je le caractérise, une excédence de vie qui fait que l'homme est autodidacte. Et ô combien, c'est quelqu'un qui a une mémoire livresque absolument extraordinaire.
Alors justement, qui est-il ? On parlait en introduction de résilience.
Oui, oui.
Quel a été son parcours ?
Alors
par
son parcours, c'est d'abord, il est orphelin à 15 ans. Bon, il fait de la résistance. Et ses amis, ce sont des personnages que tu as connus, bien sûr. Je pense à Léon de Sévéry, je pense à Victor Ziegelman, je pense à Jean Lamberger. C'était des mensch qui se sont battus contre les nazis. Il est donc orphelin à 15 ans. Il entre dans la résistance à ce moment-là. Et puis, comme son père avait déjà une petite affaire de marchand de ferraille, on peut dire, hein, à l'époque c'était comme ça, lui va continuer dans cette voie, mais devenir, on peut dire, un industriel plus tard de la métallurgie, qui fait une réussite sur le plan social phénoménal. Et puis, ça ne l'empêche pas de se cultiver, ça ne l'empêche pas de lire beaucoup. Il a une relation au livre qui est une relation que je qualifierais d'existentielle, de même qu'il aime le théâtre, il fait du théâtre. Et c'est quelqu'un qui est toujours dans une sorte de créativité de la pensée qui fait que, d'une certaine manière, ça l'a porté. Mais, il faut ajouter à ça sa rencontre, et c'est ça qui est déterminant, sa rencontre avec les Klarsfeld, qui fait que sa vie va prendre une coloration militante qui va, en réalité, lui donner une énergie considérable. Le parcours d'un Joseph, c'est pour ça que pour moi, il est tout à fait exemplaire, c'est quelqu'un qui, fracassé par l'histoire, va tenir la tête haute et devenir un mensch, c'est-à-dire quelqu'un qui, en fait, va être un fleuron sur le plan social, toujours dans la modestie, toujours dans le retrait, parce qu'il ne se met jamais en avant, et ô combien généreux, ô combien, je dirais, chaleureux envers autrui. Parce que c'est quelqu'un, c'est le souci des autres qui lui importe avant tout, quoi. Le souci des autres, du bien des autres.
Et tu parlais d'Emmanuel Lévinas, oui. Et c'est un petit peu un éclairage sur sa vie.
C'est ça.
Quand Emmanuel Lévinas parle des 10 commandements et d'une tuture à point, ce n'est pas... personnel, c'est pas je me protège moi, c'est que la vie ou la mort de l'autre est plus importante.
C'est ça.
Et c'est la destinée de Joseph Schwarz, mais aussi de tous et toutes parmi les fils et filles des déportés juifs de France.
Alors,
attention aux vivants, à autrui.
C'est ça, tu le lis très bien. Alors, à ceci près qu'en réalité, Joseph, il faut le dire, n'est pas chatouillé par les problèmes, religieux. Hein. Bon, attention. Il s'inscrit pleinement dans la tradition juive, hein. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'est pas près de ce que je pourrais appeler la liturgie. Bon. En même temps, il y a quelque chose chez lui qui, en fait, le caractériserait comme quelqu'un de juste, voilà, au sens de notre tradition, c'est-à-dire, ouais, vraiment, allez, j'appellerais, je le qualifierais d'un... peut-être un tzaddik laïque, si on peut dire. Mais ce que tu dis autour de la pensée de Lévinas, qui peut entourer un petit peu le parcours des uns et des autres, c'est vrai dans la mesure où, en fait, il n'y a pas d'ego. C'est-à-dire qu'en réalité, la lutte qui est menée, elle est menée au nom du collectif et regroupée autour des Klarsfeld, avec, je dirais, une vision commune qui fait que, en fait, ce qui compte avant tout, c'est d'obtenir réparation, c'est d'aller du côté de la vérité, et que ce soit Serge ou que ce soit Joseph, ce qui les caractérise et qui nous entraîne dans une exemplarité, c'est le fait que le combat pour la vérité ne déroge à rien d'autre que cela. J'en prends par exemple pour Serge, il faut voir comment il s'est battu contre les plus hautes instances de la République, hein, bon, pour mener à bien son combat. Et pas plus tard que, je dirais, il y a deux ans, il faut se souvenir de Joseph montant à la tribune du Veldiv, où il était invité comme témoin rescapé du Veldiv, où il va montrer sa colère de voir qu'on pouvait porter l'étoile jaune, alors que c'était des manifestants qui luttaient contre le
Covid.
Contre le Covid à ce moment-là. Et on voit le visage de Joseph dans une indignation, une colère devant le gouvernement rassemblé autour du Premier ministre de l'époque. C'est quand même un moment incroyable. C'est pour dire que la vérité, quand on a un combat pour la vérité, je dirais ça, c'est quelque chose de glorieux, quoi, de glorieux.
Alors justement, ce combat, il est mené depuis des décennies.
Oui.
Ces militants qui rappellent que le plus jamais ça est un impératif, que ce n'est pas juste une formule creuse pour la forme et qu'elle invite au respect de trois injonctions, oui. Se souvenir, témoigner et s'engager à ne jamais permettre une itération de notre douloureuse histoire.
Oui.
Et force est de constater que nous nous sommes trompés. Répéter inlassablement plus jamais ça n'a pas suffi. Depuis le début du XXIe siècle, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées ont été assassinés en France parce qu'elles étaient juives. Alors on peut citer les noms de Sébastien Selam, Ilan Halimi, les 5 morts à l'école aux arts à Torah de Toulouse, dont des enfants de 3, 5 et 8 ans, les victimes de l'hypercachère, l'assassinat de Sarah Halimi, 65 ans, de Mireille Knoll, qui était octogénaire. Et pourtant, on a continué de rappeler et de répéter à nos cérémonies du Yom HaShoah notamment, ou les Askara, plus jamais ça. Et on a pensé que c'était des faits divers, que c'était des actes isolés. Et puis aujourd'hui, on voit ce déferlement antisémite qui se déchaîne depuis le 7 octobre, alimenté par certains partis politiques. Oui. Et cette question, voilà, je ne peux la poser qu'à toi. Oui. Est-ce qu'on a manqué quelque chose ? Ou est-ce que ce sont les autres qui ont manqué d'écouter les militants de la mémoire ? Est-ce qu'on est dans une impasse ?
Alors, c'est la question cruciale. Tu sais bien que tu l'as rappelé, j'anime cette émission Mémoire et Vigilance, enfin, sur cette fréquence, depuis 1980. C'est-à-dire qu'à cette antenne sont passés tellement de rescapés de la Shoah, anciens survivants d'Auschwitz. Bon, je vais faire bref. En réalité, je pose la question, y a-t-il une leçon perdue d'Auschwitz ? On peut vraiment se poser la question. Et c'est vrai que lorsqu'on assiste à tout ça, aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce que tu viens de dire, et lorsqu'on écoute Joseph, il le dit, mais à quoi ça sert tout ça ? Qu'est-ce qu'on a fait, etc. Sauf que d'une certaine manière, si on gratte un petit peu, je dirais que, en fait, est-ce qu'il le pense vraiment ? Je n'en sais rien, mais en tous les cas, il y a toute raison d'être amer. Il y a toute raison de vraiment d'être blessé pour tout ce qui se passe. En revanche, je dirais qu'on n'a pas le droit d'abdiquer. C'est ça la force juive, d'une certaine manière. Si nous sommes restés juifs jusqu'à aujourd'hui, c'est précisément, il y a cette flamme qui fait que nous sommes toujours dans le rappel du passé pour mieux, je dirais, apprivoiser et le présent et l'avenir. Et dans ce sens-là, eh bien, il faut garder la tête raide, comme on dit, hein, de manière à continuer plus que jamais à enseigner, à transmettre de façon à ce que, en fait, on ne soit pas pris dans ce tourbillon de l'abdication qui ferait que, d'une certaine manière, en réalité, on tournerait le dos à ce qui serait insupportable, comme le dit aussi Elie Wiesel, d'une certaine manière, à ce qui serait insupportable, c'est-à-dire l'oubli de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la mémoire des nôtres assassinés, qui, en fait, ne mérite absolument pas ni l'indifférence, bien sûr, ni l'oubli. Et dans ce sens-là, ce qui doit nous guider, je ne donne aucune leçon, mais ce qui nous motive, bien sûr, c'est l'éthique, avant tout. On parle de travail de mémoire, mais il faut parler d'un travail éthique. Le travail éthique, c'est effectivement de tout faire aujourd'hui pour apporter une contre-information par rapport à je dirais, ce vent mauvais de l'antisémitisme, et plus que jamais, je dirais, faire en sorte d'éduquer autour de nous sans arrêt, prendre la parole sans arrêt et d'éduquer autour de nous. Et bon, avec, je dirais, bon, cette interrogation de se dire, mais bon, est-ce que ça va porter ? On n'en sait rien. Qu'est-ce que ce sera demain ? On n'en sait rien. Mais au moins, et c'est déjà beaucoup, on aura notre conscience tranquille.
C'est le nous de l'espérance de ben oui, Edmond Flegg.
C'est ça. Oui. J'espère l'espérance. Il y avait une très très belle émission, effectivement, la semaine dernière, dans l'émission talmudique de Marc-Alain Wachnin, où il recevait le grand rabbin de France, Raïm Korsia, où en fait, autour de Edmond Flegg, et je crois que cet homme, nous de l'espérance, c'était le titre d'un de ses livres célèbres, eh bien, il faut s'attacher à ce message. Il n'y a pas d'autre espoir que l'espérance. Il n'y a pas d'autre espoir que ça. Mais bien sûr, bien sûr.
On n'a pas le choix.
C'est valable pour toi, ouais, dans tes émissions, c'est valable pour nous, bien sûr.
Alors, dans ton livre, il y a deux niveaux de lecture qui se télescopent.
Oui.
Un film qui se tourne avec Joseph Schwartz, oui, et l'actualité politique de cet été 2024 la plus brûlante.
Oui.
C'est aussi l'occasion de la commenter et de s'en inquiéter dans l'ombre du 7 octobre.
Oui.
Et tu rappelles cette citation de Vladimir Jankélévitch, oui, que d'autres ont dit par la suite, mais il le formule très bien. Alors, tu cites quelque part dans L'Inachevé en 1987, où le philosophe dit « L'antisionisme est la trouvaille miraculeuse qui donne la permission d'être démocratiquement antisémite. Qui dit mieux ? Il est désormais possible de haïr les Juifs au nom du progressisme. Il y a de quoi avoir le vertige. Ce renversement bienvenu, cette introuvable inversion, ne peuvent qu'enfermer Israël dans une nouvelle solitude. Avoir perdu l'appui de la gauche, cela ressemble à un châtiment métaphysique. Oui, elle est très difficile à porter, cette ironie cruelle du renversement, devoir mendier appui et alliance auprès de ceux qui ont toujours détesté les Juifs et qui aujourd'hui trouvent un avantage tactique à soutenir Israël. Voilà l'ironie tragique par excellence. Pourquoi fallait-il qu'elle fût réservée aux survivants d'Auschwitz ?
Et c'est extraordinaire, parce que cet ouvrage tiré, ces extraits tirés de quelque part dans l'inachevé, qui est un livre majeur de Yankelevitch, eh bien, ça a été écrit il y a des décennies. On est en plein dans l'actualité, il n'y a même pas d'autres commentaires à faire, puisque c'est une actualité brûlante. Sauf que si Yankelevitch était là aujourd'hui, et qu'il assisterait à ce qui se passe, mais je dois dire que ce serait une pétrification pour lui. Parce que là, je dirais, c'était le début, c'était les prémices de ce qui allait se passer. Mais là, aujourd'hui, ça a pris une phase encore plus aiguë. Je rappelle quand même que dans cet ouvrage, et tu l'as bien vu, c'est que, en fait, ces réflexions sont accompagnées par ces auteurs qui nous sont chers, hein, Yankelevitch, Levinas, Comte-Sponville et d'autres, Martin Lawaknin, bien sûr, et je dirais qu'il accompagne, cette trajectoire autour de cet été très particulier 2024, quoi. Hein.
Alors, je n'ai peut-être pas lu tous tes livres, mais je crois que j'en ai lu l'essentiel, on en a parlé ici. Et ton style est reconnaissable, parce que à une histoire, à un récit, une fiction, à la biographie ici, se mêle la réflexion métaphysique et puis la convocation de citations de penseurs et essentiellement juifs qui nous ont précédés. Et on voit en fait qu'ils avaient déjà tout vu.
Mais bien sûr. Et puis, en fait, ces auteurs-là, ben, tu veux que je te dise, vraiment, bon, je sais que c'est pareil pour toi, ils nous nourrissent, quoi. Je ne peux... Bon, moi qui prends le métro tous les jours pour aller à mon travail, bon, à ma consultation, eh bien, le matin, la première chose qu'il faut faire, c'est aller dans sa bibliothèque et puis, selon l'humeur, prendre un livre. Mais c'est tellement un bonheur d'être accompagné par ces penseurs. Ils nous nourrissent, hein, voilà. De même que les textes juifs nous nourrissent. Comment se passer des textes juifs qui nous aident à penser, qui nous donnent à penser? Voilà.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Claude Boschurberg, qui nous parle de son nouvel ouvrage « Un été métaphysique avec Joseph Schwartz », qui vient de paraître aux éditions Inédit. On l'a dit, on l'a répété, Joseph a 98 ans aujourd'hui, son intelligence reste aiguisée, même si le corps suit moins ou difficilement. Il est évoqué à plusieurs reprises dans ton livre la finitude à titre individuel, mais également à titre collectif pour la génération des témoins qui nous quittent. Tu as parlé aussi de ce dernier carré. C'était un de tes précédents livres. Déjà, comment se porte-t-il et combien reste-t-il membres de ce dernier carré?
Il ne faut jamais compter. Hein. Oui. Bon, on ne va pas faire une énumération. Disons que, c'est vrai qu'il y a un moment où on est rattrapé, par tout simplement la biologie. Hein, c'est-à-dire que, malheureusement, là encore, on est dans une réflexion métaphysique. C'est-à-dire que l'être humain va de la naissance, malheureusement, à la finitude. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes les uns et les autres rattrapés par les affres de l'âge. Mais en vérité, ce qui nous porte, d'abord, c'est la fraternité, ça c'est sûr. Il y a quelque chose, un supplément d'âme qui fait que ce n'est pas n'importe quelle amitié. C'est une amitié qui est fondée sur un destin commun, une fidélité. Et puis, je le vois avec les uns et les autres, ce qui nous porte aussi, c'est encore une révolte toujours fraîche, quoi. Quand on parle avec Joseph, il a des indignations, il a des révoltes. Il a, avec sa phraséologie qui est qui est très brutale d'une certaine manière, mais dans le bon sens du terme, il va à l'essentiel des choses. Et je dirais que ça caractérise ce que Bergson appelait l'élan vital, hein, qui fait que d'une certaine manière, nous ne sommes pas écrasés. Nous ne sommes pas écrasés par ce sentiment de finitude. Certes, le corps a du mal. J'oublie pas que je suis aussi psychosomaticien. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas faire en sorte d'échapper aux tensions anxiogènes de la vie courante, mais il n'empêche que quand on garde une tête fraîche, qui s'indigne, une tête qui, en fait, a le souci des autres, eh bien, d'une certaine manière, allez, j'ai presque envie de dire, on passe au-dessus des affres de l'âge, quoi.
Alors, je vais rester sombre, hein. Je vais te citer sur un autre point. Tu écris, on peut se demander, face à ce déferlement de haine, donc c'est la situation politique actuelle et la montée de l'antisémitisme, hein, ce qu'il adviendra du cycle historique suivant, après la disparition du dernier témoin de la Shoah. Le tableau est sombre. Les sociétés humaines sont devenues la proie d'une pulsion de mort massive et l'antisémitisme relève de cette pulsion de mort qui incombe avant tout à son initiateur et non bien sûr celui ou celle qui en est la victime. Comme le dit Freud, la pulsion de mort est une aptitude à la haine, elle participe d'un gain de plaisir
d'une autre sorte.
Est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher d'être inquiet pour l'avenir, finalement?
Mais oui, on ne peut pas s'empêcher puisque, en fait, on va faire quand même tout un détour par ni l'anthropologie ni par l'histoire, mais en vérité, si, je parlais de la biologie. La biologie, elle nous rappelle quoi? Elle nous rappelle que la vie, elle est faite de systole et de diastole, c'est-à-dire de tension et de repos. On est arrivé, un type de mon âge, je suis émerveillé par une chose, c'est que quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir un téléphone dans ma poche. Je dis, mais attendez, si on a un téléphone dans sa poche et qu'on peut appeler n'importe où, mais on y est. C'est un progrès, mais considérable, considérable. Or, si on va au plus haut de la technologie, en même temps, je dirais, il y a une phase descendante au plan de l'humanité. Et en fait, Freud nous apprend quoi? Que la vie d'un être, elle est polarisée autour de deux séquences, la pulsion de vie, mais qui s'amalgame avec la pulsion de mort. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un peu plus de pulsion de mort, une société malade, qui fait qu'il y a une sorte d'aptitude, comme le dit Freud, une aptitude à la haine, et quelque chose d'incroyable, c'est ce gain de plaisir d'une autre sorte qui fait qu'il y a aussi une jouissance de se faire mal. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et donc, c'est un constat que je fais, et en fait, je serais bien maladroit, ou je serais, comment dirais-je, complètement en dehors de la plaque si je prophétisais ce qui va se passer demain. Mais en tout état de cause, on a des raisons quand même d'être au moins interrogatif, parce que à moins qu'il y ait à ce moment-là une réparation de ce qui se fait au niveau du monde aujourd'hui, c'est-à-dire de retrouver une pulsion de vie, mais en vérité, aujourd'hui, nous nageons en pleine pulsion de mort.
Quel message tu aimerais qu'on retienne de la lecture de ton livre?
Ah, c'est une très très bonne question. Le message, c'est que, en fait, Joseph Schwartz, à travers sa souffrance, à travers ce qu'il a subi comme violence, je dirais tragique, la perte de ses aimés, eh bien, a maintenu le cap et que lui nous délivre un message. Alors, je vais reprendre des mots que nous disions tout à l'heure, un message d'espérance, parce que ce qui restera malgré tout, et en fait, je reprends aussi les formules de Yankelevitch, ce que l'on ne peut pas enlever à un être, c'est qu'il est été. Il est été. Nous avons été, et il restera des traces. Il restera des traces de Joseph, il restera des traces de, évidemment, de Serge Klarsfeld, parce que, en fait, c'est pour moi le plus grand historien du monde. Vraiment, c'est l'honneur de notre pays. Et en fait, comme nous sommes autour de lui et dans sa proximité, eh bien, j'ose espérer qu'il restera quand même quelque chose de nous aussi, puisque je voudrais rappeler que j'ai remis 43 ans de témoignage au mémorial de la Shoah et également de ma page mémoire Actualité juive. Donc, quelque part, ça me console un peu de me dire, bon, allez, Boscherberg, il sera quand même pas oublié. Et derrière moi, tous ceux que j'entraîne dans le collectif. Voilà ce que je veux dire.
On ne t'oubliera pas.
Et je te remercie
pas.
De tout cœur.
Merci, merci à toi. On rappelle que ton actualité, c'est l'apparition de ce livre, vraiment. Alors, je le disais, peut-être qu'à chaque fois que je lis un livre, j'ai l'impression que c'est le meilleur. Mais celui-là m'a beaucoup touchée. Par son style, par la manière dont tu abordes et tu convoques des grands penseurs, par la préface de Serge Klarsfeld, qui est vraiment très forte avec cette conclusion de souhaiter être enterré avec son ami Joseph Schwarz. Et merci beaucoup, Claude, pour ce travail de mémoire. Et évidemment, on recommande vivement la lecture de ce livre à nos auditrices et à nos auditeurs. À très bientôt. Au revoir.
Merci.